Vous écoutez la leçon biblique de l'église de la science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 31 mai 2026. Sujet: la nécromancie ancienne et la moderne, autrement dit, le mesmérisme et l'hypnotisme dénoncé. Texte d'or, psaume. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Lecture alternée. Tite. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Il y a en effet beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. La Bible. Ainsi parle l'Éternel, je retourne à Sion, et je veux habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle, et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain, et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que je hais, dit l'Éternel. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme ». Et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit « C'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, « Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. » Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Dieu dit à Abraham « Toi tu garderas mon alliance. » Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées, et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. » Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne « Science et santé avec la clé des écritures » de Mary Baker Eddy. Honnêteté est pouvoir spirituel. Malhonnêteté est faiblesse humaine et prive du secours divin. Vous dévoilez le péché, non pour nuire à l'homme corporel, mais pour le bénir, et tout bon motif à sa récompense. Éluder la vérité, c'est paralyser l'intégrité et vous précipiter du pinacle. La science chrétienne s'élève au-dessus de l'évidence des sens corporels. Mais si vous ne vous êtes pas élevé vous-même au-dessus du péché, ne vous félicitez pas de votre aveuglement au sujet du mal, ni du bien que vous connaissez et que vous ne faites pas. Une attitude déloyale est loin d'être chrétiennement scientifique. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Tâchez de laisser dans l'entendement de chaque élève la profonde empreinte de la science divine, un sens élevé des aptitudes morales et spirituelles requises pour la guérison, sachant bien qu'il est impossible à l'erreur, au mal et à la haine d'accomplir les magnifiques résultats de la vérité et de l'amour. L'acceptation ou la recherche d'enseignements contraires à la science chrétienne absolue a toujours pour effet d'empêcher la démonstration scientifique. Si l'élève adhère strictement aux enseignements de la science chrétienne et ne se hasarde pas à enfreindre ses règles, il réussira certainement dans l'œuvre de guérison. La science chrétienne sait faire ce qui est juste, et seul faire ce qui est juste peut prétendre à ce nom. Il n'y a pas de science physique, puisque toute vérité procède de l'entendement divin. Donc la vérité n'est pas humaine et n'est pas une loi de la matière, car la matière n'est pas une législatrice. La science est une émanation de l'entendement divin, et elle est seule capable de bien interpréter Dieu. Elle a une origine spirituelle, non matérielle. C'est un énoncé divin, le consolateur qui conduit dans toute la vérité. Dans la science de la guérison entendement, il est absolument nécessaire d'être honnête, car la victoire se trouve du côté du droit immuable. Comprendre Dieu fortifie l'espérance, intronise la foi en la vérité et confirme cette parole de Jésus. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Lorsque Dieu guérit les malades ou les pécheurs, ceux-ci devraient être instruits du grand bienfait qui est l'œuvre de l'entendement. Il devrait également être instruit de la grande duperie de l'entendement mortel lorsqu'il les rend malades ou pécheurs. Beaucoup sont disposés à ouvrir les yeux de leurs semblables sur le pouvoir du bien qui se trouve dans l'entendement divin, mais ils ne sont pas aussi disposés à signaler le mal dans la pensée humaine, ni à mettre en évidence les moyens mentaux cachés par lesquels le mal accomplit l'iniquité. Pourquoi cette répugnance, puisqu'il est nécessaire de dévoiler le mal pour être sûr de l'éviter? Parce que les gens vous aiment mieux lorsque vous leur parlez de leurs vertus que lorsque vous leur parlez de leurs vices. La croyance produit les résultats de la croyance, et les peines qu'elle inflige durent aussi longtemps que dure la croyance, et en sont inséparables. Le remède consiste à sonder le mal jusqu'au fond, à découvrir et à chasser, en la niant, l'erreur de croyance qui produit une maladie mortelle, à ne jamais honorer la croyance erronée du titre de loi et à ne jamais lui obéir. La vérité, la vie et l'amour sont les seules exigences légitimes et éternelles imposées à l'homme, et ce sont des législateurs spirituels qui contraignent à l'obéissance de par des statuts divins. Gouverné par l'intelligence divine, l'homme est harmonieux et éternel. Tout ce qui est gouverné par une croyance erronée est discordant et mortel. Exposer et dénoncer les prétentions du mal et de la maladie sous toutes leurs formes, mais ne leur accorder aucune réalité. Le pécheur n'est pas réformé simplement parce qu'on lui assure qu'il ne peut être un pécheur, puisqu'il n'y a pas de péché. Pour supprimer la prétention du péché, il faut le discerner, le démasquer, faire voir que c'est une illusion, et de cette manière remporter la victoire sur le péché et en prouver l'irréalité. On ne guérit pas les malades simplement en déclarant qu'il n'y a pas de maladie, mais en sachant qu'il n'y en a pas. Le pécheur craint de jeter la première pierre. Il peut dire par subterfuge que le mal est irréel. Mais pour le savoir, il devra démontrer ce qu'il aura avancé. Le thermomètre moral de l'homme, montant ou descendant, indique ses capacités dans l'œuvre de guérison et son aptitude à enseigner. Mettez bien en pratique ce que vous savez, et alors vous progresserez en proportion de votre loyauté et de votre fidélité, qualité qui assure le succès dans cette science. Il n'y a jamais à désespérer d'un cœur honnête, mais il y a peu d'espoir pour ceux qui ne regardent leur perversité en face que de temps en temps et cherchent aussitôt à la cacher. Leur prière n'indique pas ce qu'est leur caractère. Ils se lient secrètement avec le péché, et Jésus dit de ces dehors trompeurs qu'ils sont semblables à des sépulcres blanchis, pleins de toute espèce d'impureté. Pour bien prier, il nous faut entrer dans la chambre et en fermer la porte. Nous devons fermer les lèvres et imposer silence au sens matériel. Dans le tranquille sanctuaire des aspirations ferventes, nous devons nier le péché et affirmer la totalité de Dieu. Nous devons prendre la résolution de porter la croix et aller de l'avant, le cœur honnête, pour travailler et veiller afin de trouver la sagesse, la vérité et l'amour. Nous devons prier sans cesse. Une telle prière est exaucée dans la mesure où nous mettons nos désirs en pratique. Le commandement de notre Maître est que nous prions dans le secret et que notre vie atteste notre sincérité. Il faut atteindre au sens spirituel de la vérité avant de pouvoir comprendre la vérité. Ce sens ne s'assimile que dans la mesure où nous sommes honnêtes, désintéressés, aimants et doux. C'est dans la terre d'un cœur honnête et bon qu'il faut semer la graine. Autrement, elle ne donne pas beaucoup de fruits, car l'élément grossier de la nature humaine la déracine. L'expérience devrait être l'école de la vertu, et le bonheur humain devrait procéder de la nature la plus élevée de l'homme. Attachez-vous à la vérité de l'être, en opposition avec l'erreur que la vie, la substance ou l'intelligence peuvent exister dans la matière. Plaidez avec une conviction sincère de la vérité et avec une claire perception de l'effet invariable, infaillible et certain de la science divine. Alors si votre fidélité égale à moitié la vérité de votre plaidoyer, vous guérirez les malades. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.